René Leys, March 30, 1911. C'en est fait. Je n'ai plus un professeur de pékinois, mais deux. C'est arrivé malgré tout, et je pense devoir m'en réjouir. Ce brave homme m'a fait une imposante impression. Je me reprends à espérer. Si je trouvais par lui mon vrai chemin vers le « dedans », oh, c'est par la plus petite porte et de service, et qui touche presque aux cuisines. Elle m'est ouverte, moyennant, car tout se paye ici, la modeste somme de 10 taels d'argent par mois, et le temps, perdu ou gagné, d'une heure et demie quotidienne. Ce vrai lettré s'est offert sous les espèces d'un petit homme sans âge, aux jambes courtes, et la figure pleine de politesse, penchée vers la terre. J'ai remarqué son étonnant parapluie, sans âge aussi, et sans bout. Il m'a présenté, tout comme un marchand de pierres authentiques, de lunes et de topazes fausses à Colombo, un lot de cartes de visite françaises et défraîchies. Des compatriotes à moi avaient expérimenté son savoir et le déclaraient étendu, sa méthode claire, sa patience longue. Enfin, un fidèle attachement pour les Français depuis l'époque de sa vie où, compromis dans les affaires des boxeurs et entraîné soudain vers le catholicisme, il avait, pour cette raison même, trouvé asile auprès de nous. Viendrait-il de nouveau me demander asile? Tout est si calme dans ce Peking d'à présent. Il ignore tout de ma langue. J'aimais sans pudeur les quelques mots retenus de la sienne. Et je crois bien avoir compris, grâce un peu à l'intervention de mon boy, qu'il a longtemps professé le mandarin du Nord, le Quanhua, dans une école de policiers au service du palais, qu'il devait cette charge à des parents de sa femme, qui est mandchou, et suivante du 8e rang de la 7e concubine durant la période Yenfeng, Second Empire. Voilà qui ne rajeunit pas. Quant à lui, c'est un Chinois des bannières, le descendant de ses vaillants fils de Han, ralliés précocement aux mandchous et qui trouvèrent opportun de servir, avant tout autre, les conquérants. Des confidences encore que je ne puis garantir exactement traduites. Mais je suis certain de ceci, qu'il enseigna dans la police intérieure du palais. Il a même ajouté quelque chose comme « secret ». C'est vraiment pénétré par la plus basse porte. Je tiens à entrer. Je fais donc bien, en le priant sur l'heure, de m'accorder ses conseils. Afin de ménager une susceptibilité que je lui attribue, comme à tous ses compatriotes, sur la foi des miens, je décide d'éviter qu'il rencontre chez moi mon premier professeur, le petit Belge. J'ai lu tant de choses sur l'exquise défiance de ce peuple chinois. Un pas de plus, et je congédierai le petit Belge. Non, il suffit qu'avec mensonge et politesse, j'explique la présence de ce dernier chez moi. Il remplira une fonction anodine. Il sera mon secrétaire, ou plus commodément, mon ami. C'est fort bien. J'ignore en chinois comment s'énonce secrétaire, et j'use depuis longtemps à tort et à travers de l'épithète avantageuse d'ami. Mais plutôt, j'éviterai qu'ils se rencontrent. D'abord, ils se parleraient entre eux à mon nez, avec une facilité que j'envie, des tournures qui ne sont point d'un commençant, une véritable sténographie verbale qui m'irrite. Et puis, mon Belge pourrait bien poser des questions à mon chinois des bannières sur ses fonctions professorales dans une école du palais, une école de police. Oui, maintenant, je suis bien sûr d'avoir compris « police secrète ». Et la discrétion s'impose ici, évidemment. Évidemment, ils ne doivent pas se rencontrer chez moi. 9 mai 1911. En revanche, voici un nouveau venu que je puis, sans crainte, présenter à mes futures relations mandchoues. Et d'abord, il s'est présenté, lui, tout seul, à moi, au moyen d'un carton à double face. Du côté chinois, j'ai pu lire avec fierté l'un des 3 caractères de son nom, le plus gros de ses titres, fonctionnaire au ministère des Communications, et sans hésiter, son adresse compliquée, qui d'ailleurs, à un point cardinal près, est la mienne. Nous habitons la même ruelle, le même Hutong, lui, porte nord, la mienne, alignée au sud. Nous sommes voisins. C'est à ce hasard que je dois sa visite. De ceci, je ne retiens qu'une chose. Cet homme est quelque chose au ministère des Communications. Alors, je m'inquiète de le faire asseoir. Il l'est déjà. Il s'ébroue, il se déboutonne. Voilà. Il est heureux de dénicher un Français qui semble s'intéresser aux Chinois. Il répète « Monsieur, c'est rudement rare ici. Pardon, les Français ? Non, les gens qui s'intéressent aux Chinois. Quand je vous ai vu nous débarquer dans ce quartier excentrique et louer une maison tout près de l'observatoire, j'ai compris que vous compreniez la Chine. Si vite ? Moi, je suis resté depuis tantôt 10 ans et 3 mois. Et 3 mois, vous les comptez ? Il déclare avec suffisance. Eh bien, c'était nécessaire, c'était bien nécessaire, indispensable pour mes opérations. Je n'ai aucune envie d'en connaître le chiffre. Il poursuit. Voyez-vous, je prétends qu'on ne peut traiter avec les Chinois qu'à la chinoise. Par ailleurs, vous perdez votre temps. Ils se méfient de vous. Vous n'obtenez absolument rien d'eux. J'en sais, moi, quelque chose. J'ai fait autrement. Ainsi, je suis venu d'abord habiter, comme vous, la ville tartare. J'ai mes domestiques, payés à la chinoise, 3 $. J'ai des mules, pas des chevaux. Ma charrette chinoise. Il ajoute familièrement, j'ai mes femmes. Ceci ne m'éblouit pas. J'ai tâté, j'ai goûté aux parèdres femelles que Peking, capitale du Nord, met à portée de ses hôtes de marque ou de passade, juste au nord du quartier des Légations. Ce monsieur m'en propose sans doute. Je viens d'en épouser une. Vous, je relève la tête. Le regard du nouveau marié reluit d'honnêteté satisfaite. 1000 excuses d'avoir songé à du proxénétisme. Je termine. Vous en épousez une seule ? Une d'abord, une femme en titre. Les autres ne seront que mes concubines. Je ne sais trop s'il faut absoudre ou envier, féliciter. Il explique. C'était indispensable pour ma situation de fonctionnaire et surtout mes contrats d'entreprise. Oh, voilà qui m'en impose. Qui sait ? Le voisin me paraît être en bonne voie dans la pénétration chinoise. Il ira loin. Il doit connaître déjà bien des accès. On frappe. C'est l'heure belge de la leçon. Le boy introduit tout naturellement et tout droit l'arrivant, puis demande après coup si le professeur étranger peut entrer. Naturellement. Rien n'est plus simple que de présenter au passage « Monsieur ». Tiens, j'ai omis de me souvenir du nom exact de mon petit belge. Son nom de famille, voyons, son nom d'épicier. J'escamote et je conclus. Professeur à l'école des nobles. Puis, relisant à la dérobée le verso européen de la carte de l'autre, et monsieur Jarignou, fonctionnaire au ministère des Communications. Et je vois 2 personnages bien différents. Malgré ses origines, le jeune Belge est mince et brun, d'une étrange peau mate, et il daigne à peine ouvrir des yeux qu'il a fort beaux sur le fonctionnaire, court et blond, gras, vif et rose, malgré les 45 années que portent ses bajoux et ses rides. Ils se sont tendus la main. Ils se croisent. Je reconduis pompeusement le fonctionnaire, qui se retourne, et à mi-voix, désignant l'autre, « Vous connaissez ce garçon ? Et vous-même ?
Moi ? Oh, pas du tout, pas du tout. »
Et il me promet de revenir, de voisiner, de m'aider dans ma compréhension du chinois. La porte se referme à deux battants, les loquets de cuivre tintent. Je rentre, puis, à mon tour, « Dites-moi, vous avez déjà rencontré ce monsieur ?»«
Oui, je crois l'avoir vu chez mon père. »
Et, avec un dégoût pudique assez amusant dans sa bouche jeune et bien faite,
« On prétend qu'il a des femmes chinoises. »«
Eh bien, voulez-vous que nous nous mettions au travail ?»«
Oui, oui, c'est vrai. Il m'a annoncé son prochain mariage. »
Mais j'y pense, comment diable un Européen peut-il épouser légalement une Chinoise ? Je croyais la chose interdite. Mon professeur se détache du texte qu'il feuilletait avec beaucoup trop d'attention et prend un air de dédain trop sérieux pour son visage.
C'est qu'il est chinois ?
Non, vous ne l'avez pas regardé, mon cher. Blond roussâtre, avec des yeux ronds et gris et un accent.
Et un nom, Jarignou. Voyons, ça ne trompe pas, c'est du bon terroir de Picardie.
Mon professeur accentue son mépris.
Il n'est plus européen. Il s'est fait naturaliser chinois il y a 2 mois et demi, tout juste.
Il lui fallait ses 10 ans de séjour. Mon professeur est si désapprobatif que je renfonce ma curiosité. Il est bien loin de la vie chinoise, lui, de la pénétration chinoise. Je le lui laisse entendre.
Et ça ne vous a jamais tenté ? Quand on parle pékinois comme vous le faites, vous...
Moi ?
Ses yeux s'allument.
Moi ?
Ah non, jamais !
Il se remet et me lance de force au travail. Les caractères tremblotent un peu. Je songe ailleurs. Sans doute... Une naturalisation pleine et entière à la Chine ne va-t-elle pas sans de graves inconvénients ? On voit aussitôt ce que l'on perd. Ces prérogatives d'étrangers auxquelles il est bon de ne pas toucher. On relève désormais de la justice chinoise. On peut être dénoncé, destitué, découpé, décapité, avec une prestesse et un doigté que la procédure européenne ignore. Les injustices ne sont pas plus fréquentes, mais moins réparables. Il y a aussi la Kang, supplice incommode, et que j'ai vu bien décrit dans les journaux illustrés d'Occident. Enfin, ne prenons de son abjuration que ses avantages et les miens. Monsieur Jarignou est mon voisin et sujet chinois. Je peux donc, en évitant ses avatars, participer, peut-être, à sa récolte. Il me fera des relations. Il me présentera à ses néo-concitoyens, ceux-ci à de hauts fonctionnaires, à des conseillers du trône, à des princes du sang. Décidément, le palais s'ouvre. Mais les colonnes de caractères bien alignées sur la feuille tremblotent toujours et s'impatientent. Je n'écoute plus le commentaire et la voix belge, trop monotone. Je n'y tiens plus. Il fera jour de bonnes heures encore. Je vais, pour la 20e fois, m'en aller suivre et toucher de près ce carré de muraille, dont l'accès, d'un bord ou de l'autre, me sera permis. Je n'en doute déjà plus. Je congédie mon professeur.
Oh, j'ai un peu mal à la tête. Je m'en vais prendre l'air près de l'observatoire.
Il y a là un pan de terrain vert et boisé, encastré dans l'angle sud-ouest de la ville tartare, et tout à fait...
Comment, vous ne connaissez pas ?
Moi, je rentre à la maison. Mon père a besoin de moi de bonne heure aujourd'hui. Je le quitte avec allégement.
c'est le bon fils d'un fort bon épicier. Et me voilà, tournant juste le dos à l'observatoire et au coin sud-est, approchant au grand trot de mon but, la ville impériale qui contient la cité violette interdite, le dedans. Je vais, pour la dixième fois, l'assiéger, l'envelopper, tenter le contour exact, circuler comme le soleil au pied de ses murailles de l'est, du sud et de l'ouest, achever, si possible, le périple en m'en revenant par le nord. J'ai esquivé la chaussée de la rue des Légations, trop propre et trop dure aux sabots de mon cheval. Quand, face à l'ouest, je coupe l'axe magnétique et impérial, j'ai sur ma droite la porte dynastique du palais, Ta Tsing Men, la porte de la grande pureté. Je la salue respectueusement du regard. Triple et basse, peinte d'une ocre violette, comme l'enceinte entière de la ville interdite, avec de grandes lèpres grises, elle m'est triplement fermée. À gauche, m'écrasant de ses toitures surélevées, est Cheng Yang Men, la porte droit au midi, et que tous les gens de la ville appellent familièrement Tianmen, et qui marque, sous son tunnel, l'échange entre deux mondes, l'un extérieur, Tianmen Wai, l'empire chinois avec ses plaisirs, ses tribus, ses bombances, et l'autre, restreint, cerclé, emmuré, Tianmen Nei, la cité intime, et en son milieu, le dedans. Immobile un instant entre la vertu fermée à ma droite et le vice béant à ma gauche, j'évite l'une et l'autre et je passe. Pensif, je chevauche au milieu d'une foule à droite à m'éviter, sur des dalles archaïques, effondrées, usées et vénérables, et j'entame ma randonnée autour de tout le mur interdit que je laisse continuellement sur la droite. Vers l'ouest, il est déconcertant. Il lui faut se modeler sur le contour des lacs. Il n'a pas cette carrure rectangulaire du pan oriental. On devine, à ses retraits, la figure des jardins qu'il protège. Par-dessus la crête, se voient des cimes d'arbres, des frises de toits vernissées de bleu et de jaune. Le nez en l'air, je laisse mon cheval longer exactement le fossé. À gauche, une haute bâtisse chinoise, paradoxale de hauteur, si proche du palais, dont ma route seule la sépare. Je reconnais, au linteau de sa porte, une grande inscription arabe. C'est une mosquée. C'est vrai, malgré les entretueries et les persécutions historiques, il y a, bon gré mal gré, 20 millions de sujets musulmans, ralliés de force, et depuis peu, à l'Empire. Cette mosquée domine assez curieusement le mur impérial. Elle observe, avec une obstination impunie. Elle risque, jour et nuit, le regard que je voudrais donner, le coup d'œil, par-dessus le mur. Maintenant, ayant tourné d'un angle droit sur ma droite, je remonte vers le nord, dans la longue allée feutrée de poussière, d'un galop rectiligne parallèle à la muraille. Au loin, la porte Siquamen grossit sur place à chaque foulée de mon cheval, sans que rien change autour de moi, tant le mur est uniforme sur un millier de grandes allongées. Je remets au pas, tourne à l'est et franchis la porte. Me voici dans la ville impériale, l'habitat maintenant ouvert à tous les premiers conquérants, mes proches, sans autre chose qu'un dernier mur interposé, du palais, du dedans, du milieu. Précisément, par-dessus ce mur, de grandes choses grises et jaunes et bleues dépassent de nouveau le fait et souffrent d'être vues. Des crêtes de temples, des palais à deux étages, est le gros bulbe ventru de la tour blanche, qui impose ici sa panse empruntée, son corps de stupa bouddhique, sa personnalité hindoue. Assez jeune, auprès des 4000 ans d'âge chinois et de culte authentique du ciel, la piété qui la gonfle apparaît vraiment comme sa forme, un peu art nouveau. Et puis, elle mérite. C'est une étrangère au palais. Bien pis, c'est une infidèle. Et sa place n'est pas là. Retournée sur ma selle, sans la perdre de vue, je contourne la longue sinuosité de muraille dont elle fait le centre. Je laisse aller le pas. La route est libre. Et d'ailleurs, je suis seul européen. Les brouettes chinoises s'écarteront. La tour blanche a disparu. Je rassemble mon cheval qui pointe. À 10 pas devant nous, il y a un autre cavalier, et européen, en difficulté avec sa monture. Au beau milieu de la route, qui est pourtant libre, il piétine des 4 sabots. Son cheval est assez vif, mais je n'aperçois rien qui l'effraie. Alors, le cavalier est un nerveux. Au lieu de calmer sa bête, il se déplace à tort et à travers. Il regarde autour de lui les murs de haut en bas, puis à sa droite un parapet. La route passe par là sur un talus qui fait le gros dos. Il cherche. Enfin, il se redresse. « Tiens, c'est mon professeur !» Je suis pris en faute. L'observatoire et le pavillon d'angle sont juste à une lieue d'ici, et qui plus est, à l'opposé diagonale du point géographique où nous nous rencontrons. Mais lui-même, il me salue très poliment, sans étonnement et sans honte. Son cheval calmé tout d'un coup prend naturellement la direction et l'allure du mien, comme s'il visait la même écurie. J'hésite un peu. « Vous ne m'aviez pas dit que vous montiez à cheval ?»« Oh, je fais sortir les chevaux de mon père. » Et il me semble un peu sur l'œil, celui-là. Il a peur de tout. Il m'a jeté par terre 8 fois. Pourquoi le montez-vous? C'est le plus amusant. Au même instant, le cheval a volté, s'est jeté sur le mien, puis sur moi, les lèvres démasquant un furieux râtelier. Il glisse fort à propos sur une dalle, fait 2 cabrioles, reçoit une magistrale volée et, tout en reniflant, daigne se tenir tranquille. J'ai été fort bousculé. Mon professeur, droit en selle, excuse sa bête. Je dis, « Avez-vous remarqué comme la route sonnait creux ?»« Non. »« Ah oui, peut-être. C'est un égout du palais. »« Un égout ? Ou un aqueduc ?»« Au fait, par où les eaux des 3 lacs entrent-elles au palais ?» Il n'en sait rien. Il ne sait rien du palais. Sauf tout ce que les gens en connaissent, l'extérieur, le crépissage. Je lui propose de rentrer avec moi. Par le nord? Par le nord, si c'est possible. Je me suis perdu 1 ou 2 fois sans arriver à contourner le ras des remparts. C'est possible. Excusez-moi. Il passe devant et s'engage dans un lacis de ruelles. Voilà que le mur se poursuit de tout près, avec des à-coups. On le perd, on le rattrape, on s'en écarte, on le rejoint à travers des places vagues encombrées de fumier et d'enfants. L'itinéraire, que je croyais constant à angle droit dans la grande ville échiquière, prend le dessin d'une marche du cavalier. Mon professeur conduit grand train avec des ralentis placés juste pour prendre au trot serré les tournants étriqués par les ruelles. Il est certain que ce chemin suit de tout près, et bien mieux que je n'osais le faire, la grande enceinte interdite, que l'on toucherait par moments à travers le fossé rétréci. Enfin, nous débouchons au plein nord du palais. C'est un point qui m'est familier, mais vraiment par un tout autre accès, les grandes avenues carrossables. Saurais-je m'y reconnaître ? Voilà bien la montagne de charbon. Nous allons passer entre elles et tous les corps de bâtiments du palais proprement dit. Mon professeur désigne le tertre couronné de 5 kiosques, le point culminant, et déclare « C'est ridicule. Tous les Européens l'appellent montagne de charbon. Eh bien, c'est ridicule. Le vrai nom, c'est montagne de la contemplation. Je jauge une bonne fois le mamelon, peut-être artificiel, couronné des 5 kiosques, fort élégant, et qui accroche là-haut quelques jeux de soleil attardés. Et je dis avec regret, « Évidemment, on doit pouvoir contempler de là-haut toute la ville tartare, même la ville chinoise. Et quant au palais, y plonger comme si non, coupe nettement mon professeur. Le toit du Qian Tsin Tien est gênant. Je le regarde. Il n'a pas changé. Et pourtant, il sait qu'il y a dans le palais un Qian Tsin Tien dont le toit, vu de là-haut, empiète sur l'horizon du sud. Alors, vous y êtes monté ? On peut y monter ? Non, reprit-il. Je le sais par un de mes élèves, qui est neveu du prince Lang. Oh, vous éduquez des neveux de prince ? Évidemment, à l'école des nobles. Il rassemble ses rênes. Je l'arrête. Restons au pas. Laissez-moi regarder au sud vers le palais, par-dessus les parapets. Je me dresse haut en selle. Les fossés du palais sont pleins jusqu'aux lèvres, comme une vasque abreuvée de pluie, d'une eau dense, nourrie de limon et de sève, d'une eau couleur de plomb, sans rides, et qui porte lourdement, lac embaumant ses profondeurs, des cernes de larges feuilles rondes d'un vert doux. Les lotus du palais vont éclore. Sans une ride dans cette eau, les pavillons au toit jaune miroitent, et je vois la denture renversée de leurs créneaux à deux marches. L'eau porte sans crever tout ce poids immobile et tout ce moment crépusculaire d'une densité qui me pèse. Mon professeur attend un peu plus loin, immobile, poli. Il ne sent rien de l'éternelle beauté de l'heure. Il ne sent pas que ses reflets dans l'eau visqueuse, ces affleurements de choses sourdies du profond inconnu de la vase, se manifestent là tout exprès, par justice du ciel, pour figurer à la fois la beauté secrète du dedans et sa contemplation impossible. Ses passions murées, ses vies dynastiques, j'en saurais sans doute moins que du bourbier de cet étang révélant ses fleurs et quelques bulles fétides. J'ai cependant besoin de me confier. L'heure est trop lourde, et il est là. Après tout, ce garçon m'a très à propos livré le nom de la montagne, d'où l'on contemple. Je me rapproche de lui. Je désigne, d'un coup d'œil, le palais, les fossés, l'eau dormante, la nuit, l'heure enfin, et je parle. Il a tout écouté sans m'interrompre. Même quand il s'est agi de certains détails peu connus de la vie du noble et doux prisonnier d'Empire, le régnant de la période Guangxiu. Je lui communique ce que je sais, le mystère, toutes les suppositions, celles que j'ai faites, emportant aux limites logiques le merveilleux, éclos et contenu là, près de nous, au cœur de la ville violette. Quand je me tais, il ne fait aucune sotte réflexion. Il ne dit point, par exemple, la vérité sur sa mort, on l'a su par les journaux de l'époque. Je lui en sais gré. À ma confidence inattendue, par lui, comme de moi, il n'a opposé que du silence. C'est très bien. J'ajoute. Mon grand regret reste d'être arrivé trop tard en Chine. Je coudoie tous les jours des gens qui, le temps d'une audience, sont entrés là et ont pu l'apercevoir. Je doute, d'ailleurs, qu'ils aient su bien voir. « Je l'ai vu », prononce mon professeur avec un respect soudain. Encore un arrêt. Je remets en route. Les chevaux, reniflant le retour, gagnent à la main. on ne peut plus trotter de front, et c'est un jeu d'adresse que d'éviter les grosses lanternes pendues à ras de terre entre les roues des chars à mules. Cependant, mon compagnon pousse l'allure. Le train est un peu fou à travers tant d'obscurité encombrée, et c'est tout à fait ahuri que je m'arrête, à côté de son cheval, dont il a sauté déjà, devant une boutique désobligeamment éclairée. Oh, je suis en retard. Mon père m'attend depuis longtemps. Voulez-vous une tasse d'un thé de Peking comme vous n'en avez pas bu ? Il va couvrir son retard de ma présence. J'accepte. Et j'aimerais le revoir en pleine lumière. On entre. Maison européenne ridicule. Cependant, il est bien chez lui. Et le père lui-même survient, me reçoit, me fait asseoir, me remercie de bien vouloir m'occuper de son fils, de son mauvais diable de fils. Je bois son thé, en effet remarquable, et ne songe qu'à m'en aller. L'éclairage de cet asile du négoce, redonnant soudain à mon professeur son air de tous les soirs, sous la lampe. Et vraiment, tout est trop laid. Un amour en fromage de Saxe tend les bras à des fleurs si éternelles qu'on peut les croire artificielles. Le service à thé vient de Satsuma, par Hambourg. Pas un rappel, même maladroit, des belles choses de la Chine, au milieu desquelles on vit, bon gré mal gré, partout, ici. Cependant, ces deux vasques de porcelaine exilées, déposées comme une ordure à la porte d'entrée. Voilà du Chine, et fort acceptable, bien que neuf, car il porte le cartouche où je reconnais le sceau du four impérial, grande dynastie Tsing, période Guangxiu, sur un fond jaune où nagent des dragons. Que font ici ces transfuges du dedans ? Ici, à l'entrée de cette auge à mélasse, à l'orée de la conserve et de l'épicerie. Oui, dit mon professeur, qui, me reconduisant, a suivi mon regard qui s'attarde et répond à mon étonnement. Oui, ils en viennent. Et daignant user pour la première fois du chinois, en dehors de ses heures payées, ils viennent du palais, du Tanei. Et il me reconduit jusqu'au trottoir, tête nue, s'inclinant à chaque pas et dans le même style. Pardonnez-moi de ne pas aller plus loin. Me retournant pour le saluer à la chinoise, j'aperçois, au-dessus de sa tête, s'illuminer la raison sociale et le nom paternel. Import and Export Lays and Company. C'est vrai. Il s'appelle Lays. Et même, je me souviens maintenant de son petit nom, de René. C'est bien cela. Mon professeur se nomme René Lays.